Nous allons ce matin dans l'un des trois textes qui nous sont proposés et qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, les versets 14 à 21. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint. On se mit à parler de lui dans toute la région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service. » afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Alors il se mit à leur dire « Ce passage de l'Écriture est accompli aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Vous le savez, la période des vœux est maintenant largement passée, mais il paraît que nous avons le droit de nous les présenter jusqu'à la fin du mois de janvier. Nous sommes le 30 janvier, nous sommes donc dans les clous. Bonne année tout le monde. Je l'ai déjà fait, mais puisqu'on a le droit jusqu'à la fin du mois, ça ne fait de mal à personne. Si je vous ramène à cette histoire de nouvelle année, ce n'est pas pour évoquer les souhaits que nous formons au début de chaque année civile, et qui sont bien légitimes, bien normaux. Il s'agit plutôt de cette extraordinaire remise à plat dont parle le texte que Jésus est en train de lire pour ses auditeurs de l'époque et pour nous aussi aujourd'hui, un jour de sabbat. L'épisode du jour se situe entre la tentation au désert, une victoire donc, et les débuts, les vrais débuts du ministère de Jésus, à un moment où sa parole commence à trouver un peu son autorité. L'épisode du jour est un peu entre les deux, c'est un moment de bascule, un moment incertain pour lui. On trouve même un début de défiance si on prend la peine de lire quelques versets plus loin où, vous le savez, aucun prophète n'est bienvenu dans sa propre patrie. C'est avec les mots de Luc, évidemment, qu'on le trouve, mais l'idée est bien la même. Ça ne faisait pas partie des versets que j'ai lus. Mais pour l'heure, Jésus est à Nazareth, dans la synagogue de sa ville natale, et il commente le prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a choisi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur, qu'on trouve au verset 18 et 19. C'est une drôle de prétention de la part de Jésus. On se demande d'ailleurs si le début d'hostilité qui se manifeste peu de temps après n'est pas en partie au moins dû à cela. Dieu m'a choisi. Devant les siens et leur certitude que l'élection concerne toujours un peuple entier, l'idée que le choix de Dieu pourrait se concentrer à nouveau, en quelque sorte, sur une seule personne a dû en choquer plus d'un. À moi l'élection. On est en période d'élection et vous savez, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup auraient pu s'en choquer d'ailleurs et à bon droit, mais il faut se souvenir que la foi des disciples s'est longtemps appuyée sur cette seule évidence, c'est lui, non pas c'est nous tous, c'est lui, c'est de lui qu'il faut de nouveau attendre quelque chose. La foi des disciples s'est longtemps appuyée sur cette seule évidence, elle s'est réclamée de cette seule singularité. Là encore, ça n'a pas dû être évident pour tout le monde. Avant même de se demander s'il était de nature divine, s'il correspondait à l'idée que nous nous en sommes fait par la suite, et nos différentes descriptions de sa personne, ils se sont surtout et avant tout fiés à leur certitude qu'il était un envoyé de Dieu, un descendant des prophètes, mais pas comme les autres. On peut se demander si le choix de cette filiation était le bon, finalement. On peut se tromper aussi en élisant quelqu'un. Celui qui vouera sa vie à l'annonce d'une bonne nouvelle, devait-il vraiment se placer dans le droit fil de toute cette lignée de prophètes qui en ont annoncé beaucoup de mauvaises? Ils ont même passé leur vie à faire cela. Ils n'ont d'ailleurs pas vécu très vieux les uns et les autres. Était-ce le bon choix de se mettre dans le droit fil de cette lignée de prophètes? Les prophètes de l'Ancien Testament avaient la rude tâche, vous vous en souvenez, d'annoncer les drames à venir, tout en promettant qu'un petit reste assurerait le futur du peuple de Dieu. C'était comme dans le déluge, hein, la plupart étaient noyés, et puis quelques chanceux, avec quelques paires d'animaux, dans l'arche, flottaient à la surface et avaient la chance de s'en sortir. Mais ici, pas de mauvaise nouvelle, une seule nouvelle, et elle est bonne, celle de l'année de grâce, c'est-à-dire du jubilé, tel qu'on nous le décrit dans le livre du Lévitique, dans Lévitique 25, pour les curieux et les méticuleux. Toutes les ardoises devaient être effacées, les esclaves et les prisonniers libérés, les terres redistribuées, une remise à plat. Une remise à plat rendue d'ailleurs nécessaire pour que, nous expliquons dans ces lignes, les sociétés humaines, et la leur en particulier, ne succombent pas à ses propres excès, ses déséquilibres parfois impossibles à vivre, des déséquilibres suicidaires. Cette bonne idée de l'année de grâce n'était plus observée à l'époque de Jésus. Ne nous faisons aucune illusion, elle ne l'était pas non plus à l'époque d'Ésaïe. On peut même douter qu'elle ait jamais été appliquée, d'ailleurs. Quelle que soit l'époque, c'était plutôt une promesse, quelque chose à venir, un programme que certaines époques de vie de ce peuple ont préoccupé plus qu'à d'autres et qui ont fait l'objet d'un vrai travail. À d'autres, ce programme formidable a été très largement oublié. C'est sûrement parce que l'effacement de toutes les dettes, la remise à plat, n'a jamais vraiment été souhaitée par toutes sortes de gens. C'est pas intéressant, une remise à plat. Pas de déséquilibre, pas de tension. C'est valable en économie, presque comme dans le courant électrique. Pas de différence, rien ne se passe. On peut même insinuer, d'ailleurs sans être très méchant, que l'opposition à Jésus, qui commence à se manifester, est peut-être aussi due à un refus de voir revenir à la surface cette fausse bonne idée surgit à nouveau du passé et que beaucoup croyaient, heureusement ou malheureusement, c'est selon, enterrer une bonne foi. Beaucoup de choses ont résisté à sa réalisation. L'oubli de la loi par le peuple d'Israël avait dû la laisser passer très rapidement à la trappe, cette bonne idée. La mise sous tutelle du pays par des puissances étrangères avait rendu inapplicable n'importe quelle autre loi que celle de l'occupant aussi. Ça n'avait pas dû aider. Les bouleversements sociaux impliqués par une telle loi seraient peut-être aussi très difficiles à gérer. Parmi tous ceux qui ont trouvé que c'était une bonne idée, beaucoup ont dû rebrousser chemin en se disant que ça n'était pas praticable. Appliquée à la lettre, mécaniquement, elle figerait peut-être l'évolution de bien d'autres secteurs d'une société certainement plus diversifiée, plus complexe. Beaucoup y ont pensé, la plupart ont reculé. Que nous apprend-on alors en ressortant de ce passé si ancien, cette fameuse année de grâce? Si on compare le texte d'Ésaïe avec ce qu'en dit Jésus, on voit déjà quelques petites différences. Jésus ne s'est pas contenté de citer, il a un peu interprété le texte à sa manière, ce n'est pas la seule fois qu'il le fait. Ésaïe dit « Le Seigneur m'a choisi pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ». Jésus lit à son auditoire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ou choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Je ne vais pas vous refaire tout le parcours des citations de l'Ancien Testament par le Nouveau, via la Septante, la version grecque, l'hébreu, etc. Il y a des distorsions, c'est certain, mais il y a surtout un effort de resserrement, de porter sur ses propres épaules ou dans ses propres mains, sur ses propres bras, quelque chose que tout un peuple n'a pas su porter au cours des siècles. En parlant d'une bonne nouvelle au singulier, Jésus montre que l'année de grâce n'est pas seulement l'application d'articles de loi bien écrits, bien rédigés, en faveur des déshérités, c'est surtout une nouvelle manière de voir qui englobe tous les cas de figure. Tous. C'est une loi avant tout spirituelle qui consiste à annoncer la grâce en toute chose. Et c'est autre chose qu'un principe de justice, même si c'est aussi précieux. Le second découle peut-être du premier. Jésus ne déclare pas poursuivre l'œuvre des prophètes, même s'il se situe dans la lignée de ces prophètes. Il apporte quelque chose d'autre, pas de plus, d'autre. Il ne souhaite pas simplement poursuivre l'œuvre des prophètes en proposant une nouvelle version des amnisties, annulations de dettes, réformes agraires, projets de soulèvement contre l'occupant éventuellement. Il s'agit plutôt d'ouvrir, d'après lui, de nouvelles portes, libérées de la culpabilité pour mieux vivre d'espérance en tout, en toute chose, libérées d'un monde trompeur et indifférent, pour mieux le subvertir par une présence authentique et bienveillante. Être dedans, plonger dedans, mais faire exactement le contraire de ce qu'il fait lui-même tout seul comme un grand, presque sans nous. Une question se pose pourtant, comme pour toute prophétie, est-ce qu'elle concerne un avenir encore indiscernable, une sorte d'inaccompli peut-être lointain, ou bien est-ce la révélation que ces choses ont déjà commencé et que nous sommes provisoirement incapables de les identifier ou de leur donner corps? Où en sommes-nous avec les promesses? Déjà ou pas encore? Grande question. Et puis dans quelle mesure? La question est d'importance parce qu'il s'agit de savoir si Jésus est un prophète parmi d'autres qui se contente de poursuivre quelque chose qui l'a précédé ou bien s'il est le Messie tant attendu qui ponctuera, terminera, parachèvera ou conclura une bonne fois l'alliance entre Dieu et son peuple ou ses peuples. La différence est de taille. Conscient de l'enjeu, c'est Jésus qui répond pour nous « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et c'est peut-être aussi la netteté de la réponse qui a dû choquer. Comment peut-on oser dire une chose pareille alors que, de manière visible, à vues humaines, comme on dit, ou à vue de nez, nous qui ne voyons rarement plus loin que le bout de ce nez, rien ne semble changer. Comment peut-on affirmer une chose pareille? Jésus répondra plus tard à cette autre question, un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, en s'adressant aux pharisiens. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, il est déjà au milieu de vous. C'est ici que la foi active entre en jeu. C'est la fin de l'attentisme, de l'espérance passive qui, il faut bien le reconnaître, est régulièrement écrasée par les faits. Place aux tentatives audacieuses, seules capables de donner peut-être un avant-goût du royaume à un monde qui ressemble à tout sauf à ça. C'est parce que Jésus est le Messie attendu et non pas un prophète de plus que notre foi active est déjà un royaume déjà là. Nous ne sommes plus pauvres, plus captifs, nous ne sommes plus aveugles, les ardoises sont effacées, tout est remis à plat. Et comme le disait l'apôtre Paul, à la fois nous n'avons rien et nous possédons toute chose. Et oui, la période des vœux est terminée. Nous sommes fin janvier. Nous avons eu largement le temps de faire des projets pour cette année civile qui vient. Les plannings sont pleins, ou presque, ils le seront totalement d'ici peu de temps. La pratique ancienne, oubliée aujourd'hui, qui consistait à annoncer que l'année qui commençait était l'an de grâce numéro tant et tant, était une manière déjà de s'inscrire dans ce royaume déjà là. Aujourd'hui, si nous pourrions très bien dire que nous sommes en l'an de grâce 2022, si nous le faisions, nous ne ferions pas référence au décompte morne ou habituel des années depuis la naissance approximative de Jésus, un point de départ qui paraît bien loin, bien éloigné à la plupart de nos contemporains. Si nous disions « nous sommes en l'an de grâce 2022 », nous nous inscririons en réalité dans une toute autre chose qu'un simple décompte. Donc bonne année à tous. Et aussi la santé, c'est important. Mais surtout, que la grâce soit avec vous tous, parce que c'est ça qui est au cœur de ces quelques lignes de Luc. La grâce qui nous fait voir toutes choses nouvelles est un vrai changement de position. C'est comme si nous avions le point de vue de Dieu lui-même. Nous avons, nous aussi, cette prétention-là. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans quel temps nous sommes. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Eh bien, que la grâce soit avec nous tous. Amen.